Bienvenue dans votre magazine Terre d'héritage.
Terre d'héritage, c'est valoriser le patrimoine près de chez vous. Le patrimoine de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne, nous allons vous faire découvrir les trésors qui vous entourent.
Terre d'héritage sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. Dimanche 8 mai, nouvelle saison s'ouvrira pour l'association Sauvegarde et Mémoire de l'église de Saint-Julien-des-Églantiers. C'est avec plaisir que nous retrouvons sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, Mme Marie-Jo Bourgoin, présidente de l'association. Bonjour Marie-Jo.
Oui, bonjour.
Donc l'église de Saint-Julien-des-Églantiers, un édifice sauvegardé grâce, on va dire, à la mobilisation d'une équipe, d'une association. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes actions donc menées depuis presque un quart de siècle pour restaurer ce patrimoine?
Oui, bien sûr. Donc, je vais faire un tout petit rappel. L'église avait été construite en 1870. L'association s'est créée en 1998 à la suite de la démolition qui était prévue. Elle a été sauvée en 2001-2002 et les travaux ont commencé. Trois grandes tranches de travaux. D'abord, 2007, la toiture. 2007, on pensait que l'église allait être ouverte au culte, ce qui n'a plus été possible, donc elle est désaffectée. 2015, deuxième tranche de travaux, la pose des vitraux de la nef. Les vitraux sur la guerre 14-18, des vitraux de Halôme. Inauguration des vitraux la même année. Et ensuite, la troisième tranche de travaux, sol refait. Puisque nous étions sur du sable, parce que les tomates étaient parties. Donc, trois généreux donateurs ont refait faire le sol. Et puis après, nous arrivons en 2020, et là, on arrête tout. Mais, entre deux, nous avons fait énormément d'animations, donc des salons, des chorales qui sont venues, les journées du patrimoine, des concerts, le barbecue. Donc énormément d'animations toutes ces années-là pour permettre aux gens de pouvoir rentrer dans leur église et récupérer des fonds pour pouvoir continuer tous nos travaux. Voilà. Et puis 2020, et ben la pandémie est arrivée.
Une équipe de bénévoles mobilisée pour faire vivre ce lieu, donc ce lieu du patrimoine. Est-ce qu'on peut parler justement de l'équipe de bénévoles qui fait vivre cette église?
Alors, cette équipe de bénévoles, ce sont des gens super. Nous sommes 9 dans le bureau, mais nous avons beaucoup de bénévoles qui viennent à chaque fois que nous avons besoin pour installer l'église, pour faire le ménage, comme pour le 8 mai, là il faut faire un grand ménage. Nous avons beaucoup de bénévoles et donc c'est une équipe qui travaille sans compter son temps, qui donne, qui distribue les affiches, qui nous fait la pâtisserie, qui anime dans un certain sens et qui font tout ce que je leur demande, je dirais. C'est vraiment des gens super. Maintenant, bon, nous sommes comme un peu partout, je pense, une équipe qui commence à vieillir. Dis seulement commence, hein, mais... Et voilà, donc 2022, là, nous allons faire quand même un petit peu moins d'animation parce qu'il faut qu'on ait le temps de se relancer.
Ouais, une association qui se relève, donc comme chaque association, de deux années, on va dire, de mise en sommeil forcée par la crise sanitaire. Il n'en reste pas moins que vous avez continué donc à effectuer des démarches pendant toute cette période. Alors justement, comment se présente cette nouvelle saison? Quelles sont les dates qui ont été retenues donc pour cette année 2022?
Alors 2022, donc nous avons alors le 8 mai notre première grande journée avec beaucoup d'auteurs, d'écrivains. Notre programme, nous avons l'Assemblée Générale le 22 mai dans l'église de Saint-Julien. Parce que les gens étaient habitués à aller à la salle Merchin après en paille, mais là nous la faisons dans l'église. Donc à 14h30. Ensuite le barbecue le 7 août sur inscription. Et le repas cette année sera à 16€. Et puis le 18 décembre, la crèche, dans l'église bien entendu. Bon, ce sont donc pour l'instant les seules activités que nous avons programmées. Mais le 8 juillet, nous recevons aussi un groupe de randonneurs. Mais là, voilà, c'est en privé, un groupe de randonneurs de la région.
Donc cet édifice propice aux rencontres conviviales, rencontres culturelles et artistiques, va s'ouvrir au public donc le dimanche 8 mai, comme vous l'avez dit. Vous allez organiser le Salon du Livre, un événement qui se prépare, il me semble, déjà depuis maintenant 2 ans. Alors oui. Comment est née cette initiative ?
Eh bien, nous avons donc Catherine Lamour qui est auteure. Et qui est déjà venu plusieurs fois dans l'église proposer ses œuvres et qui nous dit un jour ben pourquoi on ferait pas un salon du livre. Et alors nous on avait dit bah oui bien sûr, au contraire on n'a jamais fait, et donc il était programmé pour 2020. Et puis ben on a dit bon ben écoute on peut pas, on le garde sous le coude pour 2022. Et donc nous avons souhaité réouvrir l'église avec ce salon du livre.
Catherine Lamour, bonjour.
Bonjour.
Vous serez présente à ce salon du livre dans ce lieu où se côtoient donc le dimanche 8 mai architecture et littérature, l'église de Saint-Julien des Églantiers. Est-ce qu'on peut tout d'abord dire comment s'est construit ce salon du livre ?
Eh bien en fait l'idée de faire ce salon du livre dans cette église désaffectée de Saint-Julien des Églantiers, c'est une idée qui a germé en 2019, parce que j'y avais présenté mes romans de fantasy lors d'une journée des créateurs, ensuite j'avais fait une journée de dédicace aussi, et tout ça avait beaucoup plu aux gens. Et donc les responsables de l'association, Marie-Jo et François Bourgois, ont dit à ce moment-là mais pourquoi on ne ferait pas un salon du livre en 2020 ? Tous les trois, nous avons commencé à contacter des auteurs locaux, des gens qu'on connaissait, ou des gens qui avaient annoncé leur publication dans la presse, et puis on a créé, à ce moment-là, j'ai créé une page Facebook pour le salon. Seulement, ce salon qui devait avoir lieu en juin, avec le Covid, il a été annulé. En 2021, il a été à nouveau annulé. Et par contre, j'avais continué à faire vivre la page Facebook. Si bien que ça nous a permis de garder le contact avec les auteurs, et ça nous a permis de programmer enfin un salon pour le 8 mai 2022.
Voilà,
et
donc
entre-temps, comme j'avais participé à d'autres salons dans l'Ouest, et que je connaissais d'autres auteurs, j'ai pu proposer à d'autres auteurs et éditeurs que je rencontrais de venir au salon. Et parallèlement, il y a des personnes qui nous ont contactés, parce qu'il y avait toujours cette page Facebook qui fonctionnait bien. Donc ils voyaient qu'il y avait un salon qui se préparait, les gens nous ont contactés. Nous avons accepté en fait les candidatures dans l'ordre des inscriptions. Et puis à un moment, on a dû arrêter parce que l'église, elle n'est pas extensible.
Donc parmi ces auteurs, plus d'une vingtaine donc, qui seront présents à l'église de Saint-Julien des Églantiers. Donc avant tout, on aura Catherine Lamour. Alors Catherine Lamour, peut-être qu'on peut présenter ses ouvrages.
Moi, ce sont des ouvrages de fantasy, donc qui se déroulent sur une planète imaginaire, avec des aventures, des histoires d'amour, de l'amitié, de la fidélité, tout un tas de choses comme ça. Toujours une fantasy très optimiste et positive. On va avoir surtout dans ce salon, on va avoir une très très grande variété de styles de livres. On a du roman donc, on va avoir aussi des témoignages.
Philippe Géraud, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est en voisin que vous avez participé à cette première édition du Salon du Livre de Saint-Julien des Églantiers. Vous vous présentez comme auteur créateur.
Oui.
Pouvez-nous expliquer le contexte dans lequel vous avez rédigé votre premier ouvrage Ressuscité du cœur?
J'aurais préféré peut-être ne jamais l'écrire.
Ça va de soi.
Une aventure terrible, c'est qu'en faisant un footing, je me suis retrouvé avec un infarctus sur les bras, plutôt au niveau du cœur. Et donc je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital où j'ai demandé rapidement à mon épouse, en attente de l'opération, de m'amener un cahier, parce que je dis il faut que je raconte ce qui m'arrive là, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de raconter ça. Et puis au fil du temps, c'est devenu un livre, hein, tout simplement, parce que j'ai eu la chance d'avoir plein de gens qui m'ont soutenu par SMS, et le téléphone me c'était le seul truc qui me reliait à la vraie vie, quoi. Et donc pour dire merci, je leur ai envoyé le récit de mon aventure cardiologique, et puis c'est devenu un bouquin, tout simplement.
À partir de quel moment est-ce que vous avez décidé justement qu'il fallait mettre noir sur blanc cette période vécue dans le monde hospitalier? C'est dès le début de cette hospitalisation?
J'ai été hospitalisé en soins un samedi, le lundi je me suis trouvé au CHU à Caen, envoyé en hélicoptère. Et puis on m'a annoncé le soir que fallait non pas des stents, tout truc comme ça, mais qu'il fallait m'opérer, à cœur ouvert, quoi. J'ai appelé mon épouse pour lui annoncer la nouvelle, et je lui dis tu vas à mon bureau et tu me prends un cahier orange sans petit carreau et un stylo, et tu m'amènes ça quand tu viens. Voilà. Et dès le lendemain, elle m'a amené ça et j'ai commencé à rédiger, quoi. Tout ce que je voyais, tout ce que j'observais, mes ressentis, mes idées du moment. Voilà. Et c'est parti comme ça.
un aboutissement, on va dire, heureux, puisqu'on peut lire cet ouvrage, Vos aventures cardiologiques d'un opéré du cœur. Donc, quel est le profil de vos lecteurs? Qui s'intéresse à cet ouvrage?
En fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu des pathologies cardiaques de ce type-là. Faut savoir qu'il y a beaucoup de groupes, vous savez, Facebook et compagnie, d'opérés du cœur, d'associations cardiologiques. Donc là, je l'ai carrément mis en PDF à disposition de ces gens-là. À titre gratuit, quoi, parce que c'est vrai que ça peut leur faire du bien, vu que certains le commandent, quoi, voilà. C'est beaucoup ces gens-là, et puis, ouais, bah, des gens qui ont subi, quand je rencontre des gens, là, dans des diverses manifestations, c'est beaucoup des gens qui ont quand même eu une, quelque part, quelqu'un d'entre eux, autour d'eux, qui ont été malades, ou eux-mêmes, des gens qui ont eu des cancers, des trucs, enfin, voilà, ça, parce que je délivre de l'espoir dedans, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est un véritable message d'espoir pour les personnes qui sont fragilisées.
En disant, bah, des fois on s'en sort et puis ça nous change la vie quand même. Et c'est aussi un message, je dirais, de presque de prévention, en disant, faites attention à vous, prenez soin de vous, le stress, essayez de le mettre de fond de votre poche avec un mouchoir dessus. Prenez le temps de vivre.
Alors cet ouvrage, donc, on le rappelle, il s'intitule « Ressusciter du cœur ». Alors, comme vous le dites sur votre page Facebook, Philippe Géraud, auteur créateur, l'appétit venant en mangeant, le goût d'écriture aussi. Vous avez sorti donc en ce début d'année un nouveau roman.
Oui, qui a rien à voir, qui n'est pas du vécu. Ouais, ça s'intitule 2062 aventure entre deux mondes. J'ai imaginé que dans 40 ans, il y avait deux sociétés par chez nous là qui cohabitaient, un peu le monde des villages vit autour de la nature, et puis un monde très très moderne et basé sur l'intelligence artificielle, la robotique, des machins comme ça, et puis que ces deux mondes cohabitaient mais étaient en train d'essayer de s'affronter parce que la macropole essayait d'attirer des, enfin c'est un peu l'excuse que j'ai trouvé pour raconter ça, la macropole essayait d'attirer des jeunes du monde des villages, et le monde des villages se demandant pourquoi on voit deux jeunes enquêter dans cette macropole. Donc c'est juste une excuse d'affronter deux modes de vie, deux sociétés futures peut-être, je sais pas, sachant que mon cœur balançait plutôt pour le monde des villages.
Le village de Saint-Julien-des-Églantiers, donc, qui sera à l'honneur pour ce ouais. Salon du livre auquel vous allez participer. Alors justement, vous attendez que le public réponde présent, aille à votre rencontre.
Ouais, moi l'idée c'est de rencontrer des gens, discuter avec eux, échanger et puis donner le goût de la lecture, parce qu'en fait toutes ces aventures, moi, m'ont redonné, je dirais, une grosse appétence pour la lecture, et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, si on peut faire que des gens apprécient, lisent, voilà, donc il y aura beaucoup d'auteurs à Saint-Julien, là. De tout style, en fait, il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, hein. Il y a des livres jeunesse, il y a des romans, il y a des choses d'anticipation, il y a de la fantaisie, il y a un peu des romans, des trucs historiques. Et c'est vrai que bah, l'idée, c'est ça, hein, tout ce qu'on est, c'est de dire, bah, plus il y a de gens qui lisent, plus on est content.
Avec une majorité d'auteurs, je pense, très attachés à leur ruralité.
Bah, c'est aussi Saint-Julien des Églantiers et puis sa belle histoire, et notamment cette église, quoi, voilà. Après, si les gens qui viennent ici, ils sont aussi des gens qui sont attachés à, ouais, une ruralité, j'aime bien ce mot-là, ouais.
Vos ouvrages sont référencés en différents lieux, d'autres adresses, on peut s'y procurer si on n'a pas l'occasion, ouais, d'aller du côté Saint-Julien.
Le roman, là, il est disponible dans les librairies sur commande, hein, parce que c'est moi qui auto-édite, donc il y a un système ça s'appelle beaucoup de demandes, là. Donc effectivement, les gens peuvent le commander dans la plupart des librairies, en fait. Et puis sur Internet aussi, mais bon, dans la plupart des librairies. Allons donc dans les librairies.
Un autre projet d'écriture en perspective?
Un livre en cours qui va s'intituler « Je ne vais pas rester vieux toute ma vie, j'ai découvert l'antitrisme ». L'antitrisme étant un mot qui n'existe pas, que j'ai gentiment inventé. Ça va être un petit peu l'histoire de, non pas de ma vie, parce que je n'ai pas envie de ça, de rencontres que j'ai fait tout au long de ma vie, et des gens qui m'ont donné, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, c'est plus un peu un délire autour de l'antitrisme, c'est quoi, en sachant que ça va se découvrir au fil du livre. Et le trisme étant une contraction excessive de la mâchoire inférieure, traction énervée, et l'antitrisme étant le contraire. Voilà.
Voilà, on peut bien ajouter ce mot au dictionnaire, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues pour justement aller à votre rencontre,
hein? Samedi 14 mai, il y a un festard fait par l'association Arvaloir à Saint-Pierre-d'Igny, d'accord? Le 7 mai, je chante à l'Ardoise, au restaurant L'Ardoise de Saint-Pierre-d'Igny.
Alors justement, je me suis laissé dire, vous aviez une passion pour la guitare. Hein.
Oui, je suis un vieux musicien, vieux par l'âge, et puis toutes mes aventures cardiologiques m'ont redonné l'envie, même si j'avais jamais arrêté, mais l'envie de recréer, et donc je me suis mis à composer mes petites chansons. Alors voilà, j'ai ressorti mes guitares, et puis je m'amuse en chantant, et j'espère que ça va amuser les gens. Donc je me produis, là je vous dis, à Saint-Pierre-d'Igny au restaurant, et après à Arvaloir, le 14 mai. Et puis en juin, je dois faire un apéro-concert au restaurant de la Ferrière Bochard.
Différentes rencontres privées avec le public. On invite également les auditeurs, pourquoi pas, à aller visiter votre page Facebook et à découvrir ses créations musicales. Et puis moi, je suis tenté de dire, on vous lance l'invitation, pourquoi pas une rencontre au studio de Radio Alpes-Mancelles accompagnée de votre guitare.
Avec plaisir.
Je vous souhaite une belle journée, et puis j'espère que le public répondra présent. Donc à Saint-Julien-des-Églantiers, on rappelle la date, le dimanche 8 mai. Merci à vous, Philippe Giraud.
Merci à vous.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'aurais pu, c'est héréditaire, être officier d'état-major, archevêque ou vétérinaire, clerc de notaire ou chercheur d'or. Le hasard et la génétique en ont voulu tout autrement. J'ai mis les doigts dans la musique, et c'est ainsi qu'à présent. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui mais côté référence. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça fait du bien dans les phalanges, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. J'ai la guitare qui me démange, alors j'écris des chansons. J'ai appris à lire, à écrire, et je compte sur mes 10 doigts pour composer de doux délires à partir de n'importe quoi. Ne croyez pas que je m'amuse, que je cours après les honneurs. Si je taquine un peu la muse, c'est pas pour les droits d'auteur. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais au bout d'une heure ou deux, quand je me prends pour un artiste, ça donne un résultat miteux. Ça me rend profondément triste, et quand je suis malheureux. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais c'est un cercle vicieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire à cette idée. J'ai la guitare qui me démange, alors j'essaie de chanter. J'ai consulté un spécialiste pour me guérir, mais sans succès. Il m'a dit, si le mal persiste, essayez de prendre un cachet. Avant même que je le comprenne, j'étais déjà devenu chanteur. Et c'est pour ça que sur la scène, entre les deux projecteurs, j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et si c'est pas très sérieux, c'est la plus belle leçon de musique que j'ai reçue depuis toujours. C'est la meilleure thérapeutique quand j'ai des chagrins d'amour. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et quand je serai très vieux, à ma mort je veux qu'on m'installe avec ma guitare à la main. Si vous voyez ma pierre tombale qui gigote à la Toussaint. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Dans les nuages avec les anges et tout là-haut dans les cieux. Pardonnez-moi si ça dérange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Y'a rien à faire pour que ça change, ici dans un jour ou deux. Y'a la guitare qui vous démange, alors c'était contagieux.
On va avoir des livres photos, deux auteurs de photographes, en particulier Edwige Le Sieur qui fera aussi une exposition de certaines de ses photos, et puis Colas Blanchard d'Alençon qui a fait des photos sur la forêt, surtout la forêt des Couves.
Nous recevons sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles Edwige Le Sieur, artiste, photographe, auteur. Bonjour.
Bonjour.
Donc la photographie, la nature, des passions et qui vous ont également mené vers l'écriture, on peut parler de ces différentes passions ?
Oui, la nature, c'est à la fois la source d'inspiration pour la photographie et pour l'écriture, et c'est aussi ce qui est une source de bien-être. Et c'est ma manière à moi de trouver l'équilibre, la sérénité. C'est ma source de réflexion, d'introspection. Voilà, c'est comme ça que je me soigne de tout ce qui ne va pas quand il y a des choses qui ne vont pas. Et en fait, je médite au quotidien, je médite tous les jours, quelle que soit la saison, et je médite principalement dehors, et je fais aussi des marches, des respirations, et pour moi c'est très inspirant, c'est très relaxant. Voilà, je réfléchis, je trouve des solutions, et ensuite, après 2 ou 3 heures de marche et de méditation en forêt, c'est là en fait que je me mets à écrire.
Donc ça fait déjà quelques années que vous partagez donc vos différents travaux sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel. Un premier travail que vous étiez venu présenter sur l'antenne, c'était sur le thème gouttes de pluie et rosée. On peut parler de cette démarche artistique?
Oui, eh bien c'était exactement suite au problème. En fait, j'avais fait un burn-out prononcé par la médecine du travail en 2016, et donc je cherchais comment me guérir, comment me ressourcer et comment guérir de ça, comment évoluer. Et en fait, c'est à travers la goutte d'eau, parce que c'est donc le travail sur les gouttes d'eau, c'est un travail que je fais évidemment en pleine nature, et je fais ça en macrophotographie, c'est-à-dire que c'est un travail à la loupe, et ce travail demande énormément de concentration et de sérénité intérieure. Et en fait, j'ai travaillé pendant 4 ans sur ces gouttes d'eau, quelle que soit la saison, quel que soit l'endroit où elles étaient accrochées. Ça pouvait être dans l'herbe, sur une toile d'araignée, sur une roche, etc. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, cette concentration qu'il fallait avoir pour réaliser les photos m'a amené, moi, à me tranquilliser, en fait, de l'intérieur. Et donc, ça a été la première approche sur la goutte d'eau. Et la deuxième inspiration, c'était la protection et la sensibilisation à la pollution de l'eau de source. Et c'est pour ça, en fait, que ça a donné lieu à un travail d'écriture. Donc, 4 années de photographie. Et ensuite, j'ai fait 2 années d'écriture pour réaliser 2 tomes écrits accompagnés des photos.
Donc, qu'est-ce qu'elles représentent, ces photographies? Comment est-ce qu'on peut imaginer donc la goutte d'eau? Il y a différentes prises de vue, un travail photographique important, il me semble.
Oui, c'est effectivement un travail important, parce que je retouche pas du tout mes fichiers. C'est des fichiers, je travaille au numérique, mais je retouche pas du tout à l'informatique, et je travaille sans trépied, ce qui est également un challenge, surtout quand les gouttes de pluie, elles sont dans les toiles d'araignée, parce que le moindre souffle les fait vibrer. Et donc j'ai été chercher le plus de diversité possible. J'ai travaillé en noir et blanc, en couleur. J'ai travaillé toutes les situations, l'aube, l'automne, l'été, toutes les saisons. Et en fait, plus on travaille un sujet, plus on se rend compte de ce que nous offre cette beauté de la nature. Et finalement, les premières ou plutôt les dernières gouttes de rosée ne sont plus que des simples gouttes. Voilà, c'est une diversité qui finit presque par être abstraite. Ça fait comme des tableaux, en fait, comme si on avait effectivement transfiguré la nature à force de l'observer. Et puis j'ai essayé d'aller chercher d'autres sources d'inspiration, toujours en lien avec la nature et toujours en lien avec ce qui se passe intérieurement en nous. Et donc j'ai fait un deuxième travail sur les plumes d'oiseaux en 2 volets, un volet en noir et blanc et un volet en couleur. Et ensuite j'avais été chercher aussi d'autres choses, et tout ça amène à chaque fois la naissance d'un nouveau livre sur un thème particulier.
Donc toutes ces photographies, bien évidemment, on les retrouve dans ces différents ouvrages que vous allez proposer du côté du Salon du Livre de Saint-Julien des Églantiers. Ce sera le dimanche 8 mai. Alors, une première, il me semble.
Oui, tout à fait. On m'a sollicité pour y participer. Sinon, de moi-même, je pense que je ne me sentais pas encore prête ou pas encore légitime. Mais ça a été vraiment une opportunité. Je remercie la personne qui m'a sollicité.
Donc plusieurs ouvrages seront présentés, vous l'avez abordé, donc 2 ouvrages donc sur Entre eaux.
Voilà, ça, ce sont les gouttes de pluie.
On peut en parler davantage de ces ouvrages? Comment est-ce qu'ils se présentent?
Alors, le premier ouvrage, je l'avais appelé Navigation photographique dans l'univers de l'eau, et il couvre la période de 2016 à 2018, avec un travail également d'écriture davantage centré sur la protection de la ressource en eau et les causes de la pollution. Et le deuxième tome, je l'ai appelé Univers, océan, mer, sous-titré Et si l'eau résonnait en au cœur du fond de l'univers? Et il couvre la période de 2018 à 2020 que j'ai fait en photographie. Et là, le travail d'écriture qui l'accompagne est beaucoup plus intime et plus personnel.
Des ouvrages, des beaux ouvrages, hein, parce que je peux les voir, donc de beaux ouvrages. On peut les décrire justement. Comment est-ce qu'ils se présentent?
Ces deux livres, ce sont des livres de photographie d'art. Donc, ils ont un format carré, 30 cm par 30 cm, et ils ont un volume de 96 pages à chacun. Donc, ils sont assez voluminés et assez effectivement. C'est une présentation très sobre, c'est la photographie qui est vraiment mise en valeur, et dans ces ouvrages-là, le travail d'écriture est plus secondaire. Voilà, la priorité est donnée aux gouttes de pluie.
Donc l'autre ouvrage qui a suivi, donc c'était un travail consacré aux plumes d'oiseaux.
En fait, le troisième livre s'appelle La chute d'Icare. Il rassemble les deux travaux sur les plumes d'oiseaux en noir et blanc et en couleur. Et là, c'est vraiment un dialogue entre l'écriture et les photographies. Donc il y a de la couleur et il y a de noir et blanc. L'écriture est assez poétique. Le fond du texte, et ça est assez grave entre guillemets, parce que je me suis inspirée de mon expérience en milieu carcéral et des personnes que j'ai accompagnées et que j'ai rencontrées dans ce contexte-là. Et le sujet que j'aborde, en fait, c'est un questionnement sur comment on en arrive là finalement. Et le travail d'écriture m'a permis de comprendre qu'on était tous héritiers et héritières, non seulement d'un bagage biologique, mais pas seulement, en fait. On est qui nous sommes parce que nous héritons aussi du parcours de nos parents et de nos grands-parents. C'est-à-dire que nous nous transmettons de génération en génération tout un patrimoine d'histoire, et qu'on appelle souvent des secrets de famille. Et donc la chute d'Icare, c'était pour moi l'occasion de m'interroger sur l'origine, de remonter le plus loin possible pour comprendre comment, à partir d'un héritage inconscient, on peut devenir conscient de cette part-là de notre histoire pour s'en rendre davantage maître et se donner le choix de notre destin.
Donc là, on est sur une présentation plutôt légère, format livré.
Oui, la couverture est souple, alors que les autres livres sur les gouttes d'eau, c'est un format en couverture rigide. Là, c'est un format effectivement souple qui a 26 pages. Les photos sont en dimension donc plus petite parce qu'il fait 20 par 20. C'est aussi un format carré, parce que j'aime bien ce format-là. Format 20 par 20. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'il est souple parce que, comme je vous disais, le sujet est assez grave, entre guillemets. En tout cas, il est sérieux, on pourrait dire. Et la souplesse, en fait, c'est comme la souplesse de l'écriture que j'ai utilisée, permet de rendre le sujet un petit peu plus allant pour les personnes qui le découvrent. Voilà. C'est tout un ensemble de choses. Et moi, j'aime poser des questions qui me semblent vraiment importantes à titre individuel, mais aussi à titre social, mais que ce ne soit pas rebutant et que chacun puisse accéder à tout ça. Et donc, l'écriture n'est pas quelque chose de compliqué, même si le sujet que je traite est, lui, assez complexe.
Un autre ouvrage plus récent, il me semble, sorti début 2022, qui s'intitule « Guérir ».
Réflexion sur l'ego de Sapiens. Alors là, c'est aussi un travail qui m'a demandé assez longtemps, parce que les photographies, je les ai faites au départ pas avec une intention de les rassembler dans un livre, mais c'est après que je les ai rassemblées, et c'est le travail d'écriture qui me les a faites rassembler dans cet ouvrage. Et donc ça a été assez long, parce qu'en fait, pour tout vous dire, le sujet sur l'ego, donc le jeu qui dit jeu en nous et qui réfléchit, c'était mon sujet de mémoire en philosophie en master, donc il y a plus de 10 ans, et qui en fait est ressorti à ma plus grande surprise, parce que je ne savais pas qu'à un moment ça allait ressortir dans le travail de la photographie. Et en fait, j'ai été surprise de voir le chemin que moi-même j'avais parcouru sur le sujet, parce que je l'avais travaillé donc pendant 2 ans en étant étudiante. Et là, je l'ai repris à bras le corps, et j'ai été au plus loin qu'il m'était possible de faire aujourd'hui, en fait, avec ces 10 années d'expérience qui s'étaient passées. Et donc, l'ego de Sapiens est dans ce livre, donc, qui s'intitule Guérir, réflexion sur l'ego de Sapiens. Ce qui m'interroge et ce qui m'a interpellée, c'est de comprendre pourquoi on est blessé par des événements, ou pourquoi il nous faut un certain nombre de temps pour nous en relever, ou pour redémarrer une vie. Et donc, ce que j'interroge et ce que je mets en parallèle avec la douleur d'un événement, ce sont les accumulations, en fait, des blessures qu'on peut avoir, et les formes de peur qui s'y rattachent. Voilà, j'ai vraiment travaillé la profondeur là de la psyché humaine. Je me suis rendu compte que il n'y a pas de blessure sans une peur qui est cachée. Voilà, et que pour surmonter une douleur, il faut aller réveiller ou révéler la peur. Voilà, il faut en quelque sorte se nettoyer de tout ça pour faire naître et à nouveau la joie, la paix intérieure et l'envie de refaire des choses ensemble. Voilà.
Alors, comment est-ce qu'il est illustré, cet ouvrage, hein?
Alors, cet ouvrage, donc, il a un autre format. Là, il est en format rectangulaire. Il est assez développé aussi parce qu'il fait 64 pages. Et j'alterne aussi le noir et blanc et la couleur en fonction du cours de la réflexion qui est menée. Donc, je commence en noir et blanc et je termine par la couleur. Justement, pour faire écho à ce que je disais, c'est on part des blessures, on part des peurs, mais ce qui émerge à la fin, l'objectif, c'est de faire émerger la joie, le bien-être, l'enthousiasme, etc. Et bon, toutes les photos sont encore sur la nature, hein, parce que c'est vraiment ma source principale d'inspiration. Donc il y a beaucoup de branches, il y a des fleurs, il y a des nuages, il y a des dessous de champignons qui ne s'apparentent pas forcément à des dessous de champignons parce qu'ils sont pris de tellement près qu'on ne les voit pas. Voilà, un petit peu des reflets d'eau aussi, l'eau est encore présente. Voilà, des bouts de tiges, là, des petites vrilles de courges qui s'accrochent ça et là. Vous voyez, là, vous avez le dos d'un hérisson. Voilà, ça dépend en fait du sujet de l'écriture qui est à côté. Vous avez des paysages plus classiques, des bords d'étangs, des bords de rivières. Je navigue dans la nature comme je navigue dans l'écriture. L'un va avec l'autre.
Parce qu'elle ressemble à un visage où le temps écrit son passage. Parce qu'elle a souvent voyagé de cœur en cœur sans s'arrêter dans mon âme. Parce qu'elle a un peu trop servi, un peu trop dit je t'aime aussi ton âme. Ton âme a su pourtant me plaire, depuis je ne peux m'en défaire. Qu'elle n'a plus beaucoup de pages au fond de son livre d'images dans mon âme. Que souvent quand elle voudrait rire, les larmes se cachent en son sourire dans mon âme. Et parce qu'en ses yeux, l'oiseau tombe, résumant les chagrins du monde dans mon âme. Ton âme a su me tendre un piège, moi qui ai subi tant de sièges, ton âme. Parce qu'aujourd'hui, elle me fait vivre, premier chapitre de mon livre, ton âme. Parce qu'à mes yeux, elle est si douce, qu'on dirait comme l'eau de la source. Parce qu'elle fait partie de ma chair, qu'elle fait racine dans ma terre, ton âme. Ton âme a su faire écrire ces mots que je ne sus dire. Je t'aime. Ton âme a su faire écrire ces mots que je n'ai pas su dire.
Aussi. Il y aura donc des romans de fantasy, plusieurs auteurs de romans de fantasy, adultes et jeunesse. Il y aura des romans historiques, certains sur le Moyen-Âge, d'autres, il y aura aussi sur l'Égypte ancienne avec Andy Garcia Montes, qui a écrit beaucoup de, qui est un grand spécialiste de l'Égypte ancienne. Il y aura des livres sur le patois, même des BD sur le patois avec Serge Bertin, qui est un auteur qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le patois mayennais et le patois de la région. Il y aura de la romance, du roman noir et policier, des essais, les essais en particulier avec Roland Nadeau, qui est un auteur aussi très connu, qui habite aussi, dans la région. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs sont originaires de la région ou des régions proches.
On va parler à présent ferme d'animation, ferme pédagogique avec notre invitée Sophie Lamidé. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé Un regard sur la ferme d'animation. Vous avez également créé récemment votre activité, donc une entreprise de formation, d'accompagnement et de conseil sur la commune de Saint-Pierre-d'Ennis. Alors est-ce qu'on peut parler de votre parcours ?
Oui, tout à fait. Alors moi, tout mon parcours professionnel, je l'ai fait dans l'univers des fermes pédagogiques. Donc j'ai commencé sur le terrain en tant qu'animatrice, puis après en tant que responsable de structure. Et c'est vraiment un univers qui m'a... pour moi, ça a été une rencontre, la ferme pédagogique. C'est à l'époque où j'ai terminé mes études, donc j'ai fait des études en sciences de l'éducation et je cherchais un petit peu ce que j'avais envie de faire. J'ai été bibliothécaire et puis je voulais retourner dans le monde des chevaux, ma première passion. Enfin, je me cherchais un peu au niveau de ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et puis j'ai travaillé un peu en centre équestre et j'étais au milieu du manège. Puis un jour il y a une maman qui me dit bah moi je gère une ferme pédagogique et je cherche quelqu'un pour y travailler et s'occuper de l'animation et aussi être responsable du cheptel. Et puis bon, je savais pas ce que c'était une ferme péda. Et j'y suis allée et là ça a été pour moi, enfin ça a été une rencontre quoi, quelque chose. Ça, je me suis dit mais c'est exactement là où je dois être et c'est là où est ma place quoi. Et ça c'était en 2003. Voilà. Et depuis, je n'ai pas quitté cet univers. Alors voilà, maintenant j'ai essayé de, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis formée. J'étais plutôt spécialisée dans l'accompagnement des publics fragilisés, ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation animale. Donc moi j'accompagnais les personnes en situation de handicap avec des collègues de travail qui étaient les animaux de la ferme. Puis et puis au fil de ce parcours, j'ai eu envie finalement d'accompagner les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, je me suis complètement détachée du terrain. J'ai démissionné de la structure dans laquelle je travaillais pour monter ma petite entreprise et accompagner tous ces porteurs de projets magnifiques, tous ceux qui ont envie d'ouvrir des fermes pédagogiques pour qui répondent au mieux aux besoins des bénéficiaires tout en respectant le bien être des animaux qui j'accueille.
Alors justement, quelles sont les différentes valeurs qui vous accompagnent dans votre cheminement professionnel ?
Alors moi, c'est vraiment, on choisit de faire ce métier. Alors, aimer les animaux, c'est une évidence, sinon on ne choisit pas de faire un métier au contact de l'animal. Mais il faut profondément aimer l'humain pour choisir de travailler en ferme pédagogique ou dans tout autre métier qui finalement sont des métiers d'accompagnement. Mais donc mes valeurs, c'est ça, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre humain, avoir envie de le faire évoluer, de faire émerger les potentiels, et puis être accompagné de ces animaux qui eux finalement dans ce qu'on a choisi nous humains n'ont rien demandé. Donc essayer au maximum de préserver leur bien-être et de leur offrir des conditions de vie et j'irais même jusqu'à dire de travail les meilleures possibles.
Donc vous êtes éditrice d'un ouvrage, Un regard sur la ferme d'animation. Je pense que dans cet ouvrage, vous partagez votre expérience professionnelle.
Et tout à fait. Hein. C'est un ouvrage, alors on pourrait dire un guide pratique. Aujourd'hui, comme il n'en existe pas sur tous les objectifs des fermes pédagogiques, c'est vrai que ça peut être un support pour aider les porteurs de projets, mais finalement, dans cet ouvrage, c'est 20 ans d'expérience que j'ai couché sur le papier. Quoi. C'est vraiment le partage de mon expérience de terrain et aussi des différentes formations que j'ai pu suivre. Voilà.
Est-ce que c'est pas un récit qui laisse apparaître un côté militant ?
Oui, tout à fait. Oui, je revendique complètement. Je crois tellement en ces lieux, enfin, ces fermes pédagogiques qui sont des lieux d'éducation à la vie par la vie. Aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, on a vu qu'on avait besoin d'être connecté à la nature. Et finalement, on est en train de chercher des espaces où on peut se connecter à la nature, mais qui sont pas forcément adaptés non plus à tous les publics. Et bien finalement, les fermes pédagogiques, c'est ça, c'est des espaces intermédiaires entre la ville et la campagne, c'est des espaces sécures où on peut accompagner tout type de public, que ce soit la petite enfance, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en situation de handicap, les enfants. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi il y en est pas partout et que chaque commune n'ait pas sa structure, parce que ce sont les écoles du dehors, finalement, ces fermes pédagogiques. Et en effet, donc, dans ce livre, j'essaie de persuader toutes les personnes qui vont lire le livre, de dire bah oui, ça vaut le coup parce que ça a du sens, et les fermes pédagogiques accompagnent aussi les générations futures à la sensibilisation à l'environnement, à la biodiversité, au vivant, donc on sensibilise finalement à la relation à l'autre au travers de la relation à l'animal. Donc oui, tout à fait, il y a un peu, je milite un petit peu dans, je porte en tout cas quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans cet ouvrage.
On remarque de nombreuses références à Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
Oui, bah je suis fan. Pour ceux qui liront l'ouvrage, voilà, en effet, chaque chapitre débute par une citation du Petit Prince. Énormément de personnes connaissent cet ouvrage. C'est vrai que moi, je l'ai lu et relu. Il peut être lu à différents niveaux, autant avec les enfants. Moi, par exemple, en ferme pédagogique, je m'appuyais sur Le Petit Prince quand j'avais un atelier autour du mouton, par exemple, hein, dessine-moi un mouton. Dernièrement, finalement, j'ai découvert que Le Petit Prince, il veut un mouton pour empêcher les adventices de pousser sur sa planète et permettre à une autre plante de pousser. Donc, on a Le Petit Prince, il a une lecture à différents niveaux, et je trouve qu'en ferme pédagogique, il résonne, voilà. Donc en effet, je le cite à chaque début de chapitre.
Donc cet ouvrage, comment est-ce qu'il se présente ?
Alors, il commence par la partie réglementaire sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, parce que avoir une poule, un lapin à la maison, c'est chouette, accueillir les cousins pour venir voir les poules et les lapins, il n'y a pas d'incidence, on est dans l'ordre du privé. Maintenant, vous décidez d'ouvrir une ferme pédagogique, les mêmes animaux vont être mis en relation avec des publics qui vont venir chez vous dans un cadre du coup de peut-être commercial, et dans ces cas-là, vous passez dans la sphère publique et la réglementation, vous ne pouvez pas faire à la passe dessus. Donc mon ouvrage commence par le côté réglementaire. Il n'est pas très long ce chapitre, tout simplement parce qu'il y a un excellent livre qui a été écrit par la Bergerie nationale de Rambouillet qui présente tout à fait l'aspect réglementaire des fermes pédagogiques. Voilà, moi j'ai juste fait un petit résumé. Et finalement, au fur et à mesure des pages, on part du concret et des règles et on va vers les objectifs méconnus finalement de la ferme d'animation. Et pour moi, cette ferme d'animation, eh bien, c'est un lieu, un cadre qui a été pensé pour permettre la rencontre avec l'autre vivant. Et au fur et à mesure de l'ouvrage, eh bien, on va des animaux vers l'humain et vers cette rencontre finalement entre l'humain, l'animal, la nature d'une manière plus globale.
C'est un livre, vous avez choisi d'auto-éditer, pourquoi ?
Alors, parce que tout simplement, moi j'avais envie de faire quelque chose toute seule. J'ai toujours travaillé dans le milieu associatif, j'ai toujours travaillé pour la communauté, du coup pour un groupe. Et ce livre, c'est quand même une partie de moi. Et je voulais partager cette partie de moi jusqu'au bout. Et donc l'auto-édition, c'était aussi parce que je voulais prendre en main du début jusqu'à la fin cet ouvrage. Et l'auto-édition, ça en fait partie finalement.
Donc cet ouvrage, on pourra le découvrir au Salon du Livre de Saint-Julien-des-Églantiers. Ce sera le dimanche 8 mai prochain. Je suppose que en parallèle, vous allez également présenter votre activité.
Tout à fait. Finalement, l'un va avec l'autre, quoi, mon activité. Enfin, c'est aussi grâce à toute cette expérience de terrain que j'ai pu aujourd'hui monter cette entreprise de formation et d'accompagnement des projets éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques en relation avec l'homme et le vivant. Donc en effet, tout ça, c'est moi finalement. C'est différentes casquettes, différentes parties de moi, mais le livre, ce que je suis aujourd'hui, mon entreprise, ça forme un tout finalement.
Alors comment se présentera votre stand justement à ce Salon du Livre ?
Eh bien, il y aura mon livre, moi, et puis surtout, enfin, moi j'espère sincèrement que ne serait-ce que par curiosité, que je pourrais échanger avec les visiteurs. Ceux qui ne connaissent pas la ferme pédagogique, n'hésitent pas à s'arrêter pour me dire bah, qu'est-ce que c'est, je sais pas trop ce que c'est, vous pouvez m'en expliquer. Voilà, mon stand, ce sera un espace d'échange avant tout.
Donc un regard sur la ferme d'animation, ce sera l'ouvrage qu'on invite le public à découvrir à ce salon du livre. Alors un livre qu'on peut également retrouver dans d'autres lieux, notamment je pense tout près de chez nous à la boutique du domaine du Gasso à Saint-Léonard-des-Bois.
C'est ça, et si vous allez donc sur site internet, vous avez une rubrique Mon Livre où vous pouvez aussi le commander et je vous l'envoie avec grand plaisir. Et en plus, si c'est en Mayenne, je peux même vous le livrer en main propre sans aucun souci.
Et donc, j'aimerais qu'on termine cette intervention par l'une de vos publications donc que j'ai trouvée sur votre site internet, qui est peut-être inclus dans le livre. C'est la recette de ma ferme d'animation à ma façon. Est-ce que vous pouvez nous la lire, cette recette ?
Alors, la recette de la ferme d'animation à ma façon. Donc, les ingrédients. Un statut, association, entreprise, un lieu, des animaux de ferme, en fonction du lieu, du projet et des compétences. Un ou plusieurs humains aux multiples facettes, gestionnaire, secrétaire, comptable, animalier, animateur, et toutes les casquettes qu'il peut porter en fonction des publics accompagnés, aussi bricoleur, webmaster. Une bonne dose de passion. Une pincée de créativité, une cuillère à soupe bombée ou même 2, 3, 4, 5, 6 de courage, saupoudrage régulier de formation et de partage d'expérience. Donc pour la préparation, certaines étapes peuvent être interverties. L'étape 1, c'est établissez votre projet. Quoi, pourquoi, qui, quand, combien, où, comment et si. Il faut laisser mijoter quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois. Étape 2, effectuer les démarches officielles pour la création de l'activité, pour l'accueil du public et pour la détention d'animaux de ferme. Étape 3, il faut réfléchir au projet pédagogique, au programme d'activité et aux fiches d'activité, puis rédiger tous les documents. Étape 4, il faut créer vos outils pédagogiques. Étape 5, aménager ou transformer votre espace en un espace pédagogique. Étape 6, dénicher et accueillir les perles rares qui constitueront le cheptel de votre ferme d'animation. Étape 7, communiquer. Cette étape sous-entend que vos supports de communication sont déjà dans le frigo, donc ils ont déjà été préparés. Étape 8, goûter, faites goûter, ajuster, regoûter, réajuster et profiter.
Voilà, et on peut bien évidemment faire appel à une personne expérimentée donc pour nous accompagner, donc en la personne de Sophie Lamidé, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
Eh bien écoutez Sophie Lamidé, moi j'invite nos auditeurs à aller à votre rencontre, à participer à ce salon du livre du côté de Saint-Julien des Églantiers. On va peut-être terminer en faisant un petit commentaire sur la photo qui illustre la couverture de votre ouvrage « Un regard sur la ferme d'animation ».
Bah, la photo c'est une de mes brebis qui s'appelle Garance avec mon fils. Voilà.
Une belle image pour illustrer cette page de couverture. On va communiquer votre numéro de téléphone si des personnes souhaiteraient plus de renseignements sur les différentes prestations que vous proposez.
Oui, tout à fait. Donc c'est le 06 84 43 06 65 et je vous invite à aller sur mon site internet vraiment où il y a toutes les informations possibles et puis j'ai également un blog où je régulièrement j'alimente avec des partages d'expériences. Là, je propose des fiches d'activité également. Donc le site c'est www.formationrelationhomme-animal-nature.fr.
Merci à vous Sophie Lamidé. Au revoir.
Merci beaucoup.
Et j'ai enfin compris que tu m'aimais. J'ai dans le cœur mes doux parfums de la rose que tu as fait naître au matin. Et dans le ciel immense des millions d'étoiles embaume la nuit de constellations florales. Car je sais que ta rose en m'attend au ciel. J'attends pour l'atteindre une envolée d'hirondelles.
Belle vitrine littéraire des auteurs qui seront présents sur place donc à l'église de Saint-Julien-des-Églantiers pour discuter avec le public, pour présenter leurs ouvrages, les dédicacer.
Voilà, et les vendre.
Et les vendre, bien évidemment, c'est ce qu'on peut leur souhaiter en tout cas. Une info de dernière minute également, donc en lien avec la littérature, c'est l'immersion en enfance, la présentation du conte de la comtesse de Ségur que tout le monde connaît. On peut parler de cette animation ?
Donc oui, c'est Madame Nicole Lecaille qui viendra avec deux autres personnes avec elle. Elles seront déguisées en costume du 19e siècle, alors les grandes robes, pas le costume du peuple du 19e, mais plutôt le costume de la noblesse. Et c'est une spécialiste de la comtesse de Ségur et des malheurs de Sophie. Et elle va nous proposer une espèce d'immersion, enfin nous faire découvrir les écrits de la comtesse de Ségur.
On espère bien évidemment que le public répondra à nombreux, donc à cette première édition du Salon du Livre à Saint-Julien-des-Églantiers. Quels sont vos objectifs ?
Eh bien justement, on voudrait que les gens soient nombreux à venir. Et puis, un de nos objectifs importants, c'est de mettre la culture à la portée de tout le monde en milieu rural. Parce que jusqu'à présent, les salons du livre, c'était surtout dans les grandes villes. Et les gens n'y vont pas forcément. Et on s'est aperçu justement en 2019 que les gens aimaient venir eux aussi. C'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on n'a pas droit à la culture. Donc ça, c'est un de nos grands objectifs. Et puis, on espère que ça fera aussi découvrir ce lieu formidable aux visiteurs.
Ouais. Une sortie, bien évidemment, à faire en famille. Il y aura des livres pour tout âge, tout public.
Oui, il y aura des livres pour enfants. Par exemple, il y aura Monsieur Pierre Éloi des éditions Dracar, qui est une édition normande, avec des livres pour enfants qui sont formidables.
Merci à vous, Catherine Amour.
Eh bien, merci.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Et on continue avec Marie-Jo Bourgoin pour nous présenter les autres animations de cette journée.
La lecture de poèmes par un des auteurs. Et donc sur les affiches, nous avons donné les heures, les horaires de lecture, 11h le matin, 14h30 et 16h, parce que faut qu'on puisse caler tout le monde. Ensuite, nous avons la calligraphie, l'atelier de calligraphie avec Michel Chanteloup, qui mettra un atelier où tout le monde pourra essayer un petit peu la calligraphie. Et puis nous avons les dictées que les gens aiment beaucoup faire avec la plume, sergent-major. Et là aussi, nous avons calé des horaires pour que tout le monde ait sa place, là une fois de plus. 11h30 le matin, 15h30 et 17h30.
Est-ce qu'on peut préciser justement comment se déroule cette dictée à l'ancienne ?
Alors, cette dictée à l'ancienne, nous avons une dame qui vient, Isabelle, qui l'a déjà fait, qui était institutrice. Donc, qui reprend vraiment, hein, qui joue vraiment son rôle d'institutrice super bien. Donc, les gens s'installent aux tables d'écoliers. Ce sont les tables de l'école de Saint-Julien que nous avons dans l'église. Donc, nous avons constitué une petite classe dans le transept de l'église. Les gens s'installent à la table. La maîtresse dicte la dictée. Les gens écrivent le mieux possible. Voilà. Certains portent même leur porte-plume. Chacun fait ce qu'il veut. Nous fournissons des feuilles. Et puis après, la maîtresse corrige la dictée. Et c'est super. Les gens sont ravis.
Et c'est une dictée qui peut être faite également par le jeune public.
Je vais lui demander qu'elle nous fasse deux catégories de dictées parce que celles qu'elle donne souvent, enfin les dictées qui sont faites souvent sont vraiment déjà des dictées de gens, je dirais, d'adultes. Et je lui ai demandé qu'elle nous prépare une petite dictée pour les enfants, si nous avons beaucoup d'enfants. Parce que les enfants aiment beaucoup essayer la plume. Et lorsque nous faisions des ouvertures tous les dimanches et qu'il y avait des enfants qui venaient, on leur demandait « Voulez-vous écrire à la plume ?»« Oh non, on n'ose pas. » Et puis dès qu'ils se lançaient, mais ils étaient ravis. Hein. Donc il faut qu'on essaie de refaire peut-être une dictée pour enfants entre deux pendant que les adultes regarderont les livres par exemple. Et ça, je vais demander à Isabelle si elle peut préparer une petite dictée pour enfants. serait génial.
Et c'est vrai que cette écriture à la plume, donc cette belle écriture, on la regrette parfois sur les cahiers d'écoliers.
Oui, voilà, voilà, voilà. Les gens s'appliquent beaucoup. Bon, il y a des tâches, les gens ne sont plus habitués à écrire à la plume. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer et de participer.
Donc ce sera également donc l'occasion, ce dimanche 8 mai, de découvrir cette richesse de l'église de Saint-Julien des Églantiers. Vous serez là également, je pense, pour présenter cet édifice.
Eh ben voilà. Et puis, nous avons les vitraux du cœur qui ont été reposés pendant la pandémie, c'est-à-dire en mars 2020, juste au début de l'épidémie. Et peu de gens les ont vus puisque nous avons été fermés. Nous avons été juste ouverts pour les journées du patrimoine. Peu de personnes ont eu la chance de voir ces magnifiques vitraux du Carmel du Mans. Donc, en plus des livres et des animations, il y a ces vitraux, ces fameux vitraux à vraiment, vraiment regarder parce que ce sont des vitraux exceptionnels du Carmel du Mans, première génération. Donc, des vitraux de 1870 qui ont été restaurés, remis en place. Il y en a 7 dans le cœur, 2 rosaces, 2 oculus. Et nous avons eu la chance de rencontrer un très grand maître verrier qui avait fait sa thèse sur les vitraux du Carmel du Mans et qui nous a confirmé que c'était des vitraux de première génération, donc exceptionnels parce qu'ils n'en existent presque plus. Ils ont été démolis par la guerre, cassés, enfin voilà, on n'en a presque plus. Et lorsqu'on lui a fait voir nos vitraux, il a dit « mais c'est impossible que vous ayez tout ça ». Donc c'est vraiment magnifique. Et si on a la chance d'avoir un peu de soleil, c'est encore plus joli. Nous avions peur que ça assombrisse l'église. Et c'est beaucoup ce qu'on entendait. Mais en fait, non, ça donne beaucoup de place à l'église. Elle retrouve toute sa notoriété, je dirais, toute sa valeur.
Donc à découvrir, donc on rappellera que ce salon du livre, l'entrée est gratuite.
Oui, tout à fait.
Et cependant, on sait très bien que l'association a besoin de fonds, donc de généreux donateurs pour fonctionner. Justement, est-ce qu'on peut rappeler les frais et peut-être les prochain projet de l'association Sauvegarde et Mémoire de l'Église de Saint-Julien des Églantiers.
Alors, donc bien sûr, beaucoup de gens donnaient pour les vitraux. Les vitraux sont posés, c'est fait. Mais bon, il y a encore beaucoup de travaux à faire dans cette église. Alors, nous voudrions, enfin, disons que moi, je voudrais en tant que présidente restaurer les tableaux. Nous avons 3 magnifiques tableaux. J'aimerais qu'on les fasse restaurer parce qu'ils appartiennent à l'église et qu'ils sont très beaux. Et surtout un qui est vraiment inventorié et qui a de la valeur. Ensuite, nous n'avons plus de sacristie puisqu'elle a été démolie en même temps que le début de démolition de l'église. Ce serait pratique, ce serait bien que l'on refasse une sacristie, mais pas comme celle qu'il y avait parce que ce serait beaucoup trop coûteux. La faire différemment, mais le sol existe, les murs existent, donc il faudrait qu'on arrive à faire cette petite salle pour pouvoir faire des réunions, ranger un peu de matériel. Donc il y a ça. Ensuite, nous voudrions mettre l'électricité et la sono, parce que lorsque nous faisons des concerts, lorsqu'il y a des chorales, ce serait bien d'avoir une bonne sono. Bon, il y a plein de projets encore, il y a plein de choses à faire, et voilà, on espère pouvoir continuer. Je souhaiterais aussi faire un petit appel, peut-être. Nous souhaiterions avoir des jeunes qui viennent avec nous, des personnes, des jeunes retraités ou même des plus jeunes, parce que nous allons avoir besoin de
rajeunir
un petit peu pour aussi donner de nouvelles idées, d'apporter plein de choses qui serait temps qu'on modifie un petit peu.
Un contact peut-être?
Eh bien écoutez, on peut toujours moi me contacter sur mon portable au 06 07 52 84 07. Allez voir le blog où tous les renseignements sont donnés, donc sur HTTP Saint-Julien des Églantiers, tout attaché pour le blog. Et puis on peut nous envoyer un petit des messages aussi, donc sur asso-église-saint-st-julien53@orange.fr. Bon, c'est un peu long, l'adresse est un peu longue, je sais pas si les gens vont avoir retenu, mais sinon n'hésitez pas à téléphoner. Si vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à appeler, je réponds dès que je le peux. Mais laissez un petit message, parce que s'il y a une sonnerie seulement, je ne réponds pas. Laissez surtout un petit message pour que je vous rappelle.
Voilà, et on vous souhaite donc un beau succès pour ce Salon du Livre le dimanche 8 mai dans cette église de Saint-Julien-des-Églantiers. On rappelle où se situe Saint-Julien-des-Églantiers ?
Alors, Saint-Julien-des-Églantiers est sur la commune de Pré-en-Paille-Saint-Sanson. Donc, nous sommes à 6 km de Pré-en-Paille sur la route de Pré-en-Paille-Gèvres, c'est-à-dire la D245-255. Pas confondre avec le vieux Saint-Julien, parce que les gens qui partent de Pré-en-Paille et qui viennent sur la route de Gèvres vont voir l'affiche Chapelle du vieux Saint-Julien. Elle est superbe, il faut aller la visiter. Mais après, il faut continuer sa route pour aller jusqu'à Saint-Julien-des-Églantiers.
Eh bien écoutez, Marie-Jo Bourgoin, on vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.